Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous. Cela fait aujourd'hui un mois que Mathias Depardon, journaliste indépendant installé en Turquie depuis 5 ans, a été arrêté alors qu'il réalisait un reportage pour le magazine National Geographic. Lui reprochant de travailler sans carte de presse, les autorités turques ont transféré Mathias Depardon dans un centre d'accueil de migrants à Gaziantep où il est retenu depuis en attente de son expulsion. Ankara le soupçonne par ailleurs d'avoir fait de la propagande terroriste en publiant sur les réseaux sociaux des images prises il y a plusieurs années lors d'un reportage avec des militants kurdes. Pour la première fois en un mois, il a été autorisé à voir sa mère ce jeudi. Cette rétention de Mathias Depardon, loin d'être une exception, est évidemment à mettre en perspective. Les conditions de travail des journalistes en général se sont considérablement dégradées ces dernières années en Turquie, et particulièrement depuis le putsch manqué du mois de juillet dernier. Et les journalistes sont loin d'être les seuls touchés par cette restriction des libertés, cette suspicion, cette répression politique. Policiers, magistrats, avocats, professeurs, nombreuses sont les voix que le président Erdogan tente de réduire au silence sous prétexte d'apologie du terrorisme ou d'appartenance à une organisation terroriste. Alors la liberté d'expression existe-t-elle encore en Turquie? C'est notre débat de ce soir. Bienvenue.
RFI.
Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Erol Özkoray, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, ancien correspondant en Turquie de l'agence France Presse ou encore du journal espagnol El País. Vous avez été condamné à 11 mois et 20 jours de prison, assorti d'une peine de 5 ans avec sursis par le tribunal correctionnel d'Istanbul pour avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre du président turc dans votre livre, Le phénomène Gezi. On va sans doute en reparler. En face de vous, Guillaume Perrier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, ancien correspondant du Monde à Istanbul, documentariste et co-réalisateur du film Erdogan, l'ivresse du pouvoir. Alors peut-être, Guillaume Perrier, une première question que se posent peut-être certains auditeurs pour dissiper le doute. Mathias Depardon avait-il quelque chose à se reprocher lorsqu'il a été arrêté?
Non, évidemment, vous avez énuméré un petit peu tous les reproches qui lui sont faits tout à l'heure. On voit bien que le dossier d'accusation est assez mince. Hein. Il avait effectivement, semble-t-il, une carte de presse qui n'était pas à jour. Il avait fait la demande de renouvellement de cette carte de presse en début d'année et aucun refus ne lui avait été signifié, donc il continue à travailler.
Il lui avait même dit qu'il n'avait aucun risque à se rendre sur place
absolument,
sans carte de presse.
Absolument, il avait posé la question, donc il continue à travailler comme il le faisait en Turquie depuis 5 ou 6 ans. Voilà. Donc et puis ensuite, ce qui lui est reproché, effectivement, on l'a. Après, ensuite, il y a une enquête d'ouverte pour des photos qu'il aurait publiées sur Instagram il y a plusieurs années. Des photos où apparaissent des militants kurdes, un drapeau, et qui seraient considérés éventuellement comme de la propagande terroriste. Voilà, on voit bien que c'est sans fondement. D'ailleurs, le procureur, dans un premier temps, a jugé que c'était trop faible pour ouvrir une... pour déférer Mathias et l'incarcérer. Donc, voilà, les accusations sont extrêmement faible. Évidemment, Mathias est quelqu'un qui a toujours fait son travail de photojournaliste d'une manière tout à fait normale. Ça n'est pas...
Vous analysez cette arrestation, cette rétention, un mois aujourd'hui, comme une arrestation arbitraire, une volonté politique de l'État turc aujourd'hui?
Bien sûr. Alors, il y a une part d'arbitraire, bien entendu, qui concerne, vous l'avez dit, tous les journalistes qui travaillent aujourd'hui en Turquie ou sur la Turquie. Il y a une part de hasard. Bien sûr, la répression n'est pas totalement rationnelle et il y a une part de roulette russe. Il suffit de tomber sur un policier un peu zélé qui a envie de se payer un occidental et parfois il a la liberté de pouvoir jouer avec ça. Et puis évidemment, il y a une forme de chantage politique qui s'exerce. On voit bien que la durée de la détention là depuis un mois n'est plus due au hasard et que il y a déjà eu deux interventions du président Macron quand même qui a rencontré puis qui a appelé Recep Tayyip Erdogan. On voit bien qu'on n'est plus du tout dans la paralysie bureaucratique, dans un cas d'un journaliste qui se serait égaré.
On cherche à faire finalement de Mathias Depardon ou de sa situation une forme d'exemple. C'est un peu ce que vous êtes
en train
de dire.
Une forme d'exemple. Alors, il y a une forme d'intimidation contre les journalistes étrangers. Hein, le message est clair. N'allez plus travailler sur la Turquie, notamment dans la région kurde. Et puis, il y a une part aussi de bras de fer politique entre la Turquie et la France. Et ça, il y a un message qui est très clair vis-à-vis de Paris.
Alors, sur cette question peut-être, Errol Scarré, comment vous analysez les choses?
Et comme disait le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, c'est une prise d'otage institutionnelle. Ils ont fait la même chose concernant le correspondant allemand de Die Welt, Denis Yücel. Il avait double nationalité. C'est une comme disait mon ami Guillaume, c'est une sorte de chantage politique. Et Erdogan aime faire ça. Et il est spécialiste dans ce domaine.
Mais donc vous croyez que là, en gros, l'idée du régime turc aujourd'hui, c'est de dissuader les journalistes étrangers de venir travailler dans le pays.
Parce
pour vous, c'est clair.
Les journalistes turcs n'existent plus. Ils sont tous en prison. Les meilleurs sont en prison. Ils sont 150. Imaginez par exemple le journal Le Monde ou bien La Libération. Tous ces meilleurs journalistes sont emprisonnés. C'est un peu la même chose pour que les auditeurs voient un peu la situation qui est catastrophique. Donc, il n'y a plus de presse en Turquie. On parle de la liberté de presse, mais la presse...
On va y venir, évidemment, puisque parler des journalistes internationaux en Turquie n'a pas de sens sans parler des journalistes turcs.
C'est
mais Guillaume Perrier, sur
cette...
C'est la
première fois qu'il arrive aussi, pour un journaliste étranger. On parlait avec...
Alors, précisément, la question qui se pose avant d'en venir aux journalistes turcs, c'est, à votre avis, quelles conséquences va avoir cette affaire sur la couverture de l'actualité turque dans le monde entier? Est-ce que vous pensez que ça va vraiment être dissuasif? Est-ce qu'aujourd'hui on hésite à aller en Turquie? Est-ce qu'on hésite à traiter certains sujets? Est-ce que ça a déjà des répercussions?
Bien sûr, bien entendu. Je crois qu'aujourd'hui il y a déjà des problèmes pour obtenir le renouvellement de cette carte de presse. Hein, et on voit bien, puisque Mathias lui-même, on a fini par le savoir, a été concerné par un refus. Donc il y a des dizaines de cas comme ça, des gens qui n'ont pas pu se voir renouveler leur carte de presse. Et il faut bien dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux ne pas travailler sur la Turquie pour pouvoir être accrédité à Istanbul.
Sur n'importe quel sujet turc ou sur des sujets plus particuliers comme par exemple la question kurde?
Non, les sujets touristiques sur la côte à Bodrum trouvent toujours preneur et pour ça vous aurez votre carte d'accréditation. Mais évidemment aujourd'hui, dès que vous parlez de la Syrie, de la question kurde, de la démocratie, des problèmes d'atteinte aux droits de l'homme, bon, tous ces sujets-là sont devenus totalement tabous. Et encore plus si vous cherchez à enquêter sur la fortune du président ou sur la corruption en Turquie. Donc aujourd'hui, il y a évidemment des lignes rouges qui sont extrêmement nombreuses et qui empêchent tout travail journalistique honnête et sur ce pays. Je crois que c'est assez clair.
Errol Scarré, vous avez dû quitter la Turquie. Vous êtes aujourd'hui, vous vivez. Voilà, vous vivez en Suède. Vous avez eu des mots très forts il y a quelques minutes en nous disant la presse turque n'existe plus. On en est là aujourd'hui.
Oui, effectivement, parce que c'est un processus qui a commencé après l'assassinat de Abdi Pekçi en 79, celui qui l'a assassiné. C'était le doyen de la presse turque. Il a tenté d'assassiner le pape Jean-Paul II aussi. C'était un fasciste, un ultranationaliste. Donc depuis cette date-là, c'est une sorte de cassure qui s'est installée dans cette presse. Et les coups d'État ont défait la presse turque au niveau de l'éthique. Donc on a vu que cette presse, comme la presse des colonels du temps du coup d'État en Grèce en 67. On a vu le même phénomène. Ensuite, on a assisté à monopolisation de la presse turque par l'achat de milliers de ruettes par le groupe Doğan.
Mais il y a quand même des titres d'opposition, enfin il y avait des télévisions d'opposition sur lesquelles il y avait des débats. Évidemment, on a beaucoup parlé en Europe de Cumhuriyet, de ces 20 journalistes qui ont été arrêtés. Vous dites qu'il y avait déjà plus de presse?
Non, le problème a commencé en 87, très grave, d'une façon très très grave, parce que par exemple, le patron de Hürriyet avait déclaré monsieur Doğan que le but de son journal, c'est de défendre les intérêts de l'État. Donc, ça commence par là. Et quand on dit les intérêts de l'État, ce sont les intérêts de l'armée turque. À l'époque, l'État se confondait avec l'armée. Donc, Erdogan surfe sur cette vague.
Alors,
qui a commencé déjà depuis une vingtaine d'années.
Hein, puisque depuis le putsch, donc je cite des chiffres, 165 journalistes d'après l'opposition P24, d'après le site internet P24, 165 journalistes turcs sont aujourd'hui emprisonnés, 150 médias ont dû fermer. Il y a donc ce journal, Cumhuriyet, 20 collaborateurs interpellés.
Ce sont les meilleurs journalistes turcs. On peut citer quelques noms, Kadri Gürsel, Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Turan Güney, par exemple.
Donc on a coupé la tête de la presse libre, vous êtes d'accord, Guillaume Perrier?
Oui, les gens les plus respectés, les meilleurs investigateurs, les gens les plus indépendants, tous ces gens-là sont aujourd'hui effectivement derrière les barreaux. Donc le journalisme paye un lourd tribut en Turquie, alors on va en parler sans doute, c'est pas évidemment pas le seul secteur de la société turque qui est frappé par cette purge, par cette répression. Mais aujourd'hui, oui, je crois qu'on peut plus parler de presse libre en Turquie. C'est quasiment impossible. Tous les titres de toutes les sensibilités politiques ont été touchés. Alors effectivement, vous disiez, il reste quelques embryons de presse d'opposition. Mais je trouve que déjà parler de presse d'opposition, c'est un problème. Qu'est-ce que ça veut dire une presse d'opposition?
Ça devrait être juste de la presse tout court.
Au total, leur tirage, c'est aux alentours de 50-60 000.
Donc on parle effectivement de quelques publications d'extrême gauche, souvent très militantes, mais ça n'est pas un idéal de presse libre dans ce pays. Donc les journaux qui faisaient du vrai journalisme sont aujourd'hui tous mis sous silence.
Alors, le problème est le suivant. Quand la liberté de presse est attaquée, vous pouvez plus reformer et remettre en place une démocratie. C'est une liberté essentielle, c'est la mère de toutes les libertés. Quand vous n'avez plus cette liberté, quand vous n'avez plus la presse, vous tombez dans le totalitarisme, dans le fascisme, parce que la droite et la gauche n'existent pas, la liberté d'opinion n'existe pas, et vous êtes dans une tyrannie, forcément.
Alors, avant d'en venir à une question qui me semble très importante, celle de l'information auquel ont accès aujourd'hui les Turcs, Guillaume Perrier, est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'il y a quand même, malgré tous ces médias qui ont fermé, des journalistes, une forme de résistance? Alors, est-ce que ça passe par les réseaux sociaux? Est-ce que ça passe par des journalistes qui ont dû quitter le pays et qui travaillent de loin? Est-ce que ça existe?
Alors oui, il y a ce que vous venez de dire. Effectivement, il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de réfugiés. Hein, c'est depuis un an ou deux, il y a vraiment un exode très fort. Donc il y a beaucoup de journalistes en prison, mais aussi beaucoup en exil. Et ils se reforment, alors notamment en Allemagne, mais aussi en Suède ou ailleurs, des petites communautés de journalistes turcs qui recréent des médias turcophones depuis l'étranger. On a Cem Dündar, par exemple, qui a créé son propre média en Allemagne. On a une radio également turque en Allemagne qui fait beaucoup de choses intéressantes. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Et puis, il va se passer en Turquie ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays qui tombent dans une forme de dictature. C'est-à-dire qu'on va avoir des journalistes citoyens, militants, qui vont faire de l'information sans doute plus orientée, plus militante, mais de l'information de terrain, qui passera par les réseaux sociaux et qui permettra d'informer encore un tout petit peu les gens sur la Turquie. Mais on est déjà dans cette forme-là aujourd'hui.
Donc finalement, poser la question telle que je l'ai posée en début d'émission, y a-t-il encore une liberté d'expression en Turquie? Pour vous, la question est déjà complètement datée. Finalement, elle n'a plus lieu de se poser.
Je me dis, à partir de combien de violations on arrête de se poser la question, quoi. Voilà.
Erol Özkoray, vous qui êtes en Suède, vous qui êtes journaliste, qui avez dû quitter le pays, comment est-ce que vous voyez les choses maintenant? Est-ce que vous travaillez de loin sur la Turquie ou vous vous dites maintenant j'arrête?
Non, je travaille surtout sur l'opinion publique européenne. Donc je suis né à Istanbul, je suis européen, je suis dans une géographie qui est la mienne. Donc ce qui est important, c'est que mon but, c'est que les Européens voient, l'Union Européenne, les décideurs européens voient la vraie nature de ce régime, parce que nous sommes en face d'une forme de hitlérisme sunnite en face de nous, donc une sorte de...
Et vous pensez que d'Europe, on ne comprend pas ce qui se passe en Turquie aujourd'hui?
Pas tellement. On voit certains décideurs prendre le devant, etc. Mais ça doit être des politiques définies des États. Des États doivent appliquer ce genre de... Quelle politique isolée
politiquement? Vous comptez sur qui, par exemple? Sur Angela Merkel? Sur Emmanuel Macron?
Oui, il le faut. On essaye de travailler sur en faisant des articles, en faisant des émissions, en publiant des livres, etc. Mais ce qui est important, c'est ne pas confondre Erdogan et Turquie. La Turquie ne veut pas dire Erdogan. Erdogan ne veut pas dire la Turquie. Pour moi, c'est une idéologie étrangère au pays qui est une sorte de militant des frères musulmans, une sorte de Vichy à la Turca, qui n'a rien à voir.
Vous avez signé une tribune très très offensive où vous utilisez ce genre d'analogie dans Libération l'été dernier. Guillaume Perrier, peut-être sur cette question, sur la perception qu'on a en Europe aujourd'hui de la Turquie. Tout à l'heure, Erol Özkoray nous disait on ne saisit pas très bien ce qui s'y passe. Vous avez la même perception?
On a toujours eu un retard de compréhension sur ce qui se passait en Turquie, c'est évident. Je crois que par exemple, les manifestations de Gezi, ça a été un grand choc pour l'Europe parce qu'on n'avait pas vu venir tout ce qui se passait avant. Et ça fait qu'on est 4 ans après aujourd'hui et on a encore du mal à percevoir voir l'ampleur de cette répression qui a lieu aujourd'hui en Turquie. Je crois qu'effectivement, il est plus que temps de comprendre ce qui est en train de se passer. On a la mise en place d'un système parfaitement totalitaire, une société turque qui est en train d'être détruite.
La laïcité complètement détruite.
Voilà, toutes les institutions. Les acquis.
Alors qu'il y avait, il y a encore quelques années, le fameux modèle turc. On avait beaucoup misé dessus, évidemment.
Oui, alors qu'il était sans doute un peu exagéré aussi, bien sûr. Mais ce qui est vrai et qu'il faut souligner pour revenir à l'exemple de la presse tout à l'heure, c'est que moi, c'est des discussions que j'ai eues avec beaucoup de journalistes, comme avec Hasan Cemal, le grand journaliste turc qui aujourd'hui est lui aussi victime de la répression. Mais il disait que les meilleures années pour la presse turque de toute son histoire, ça a été les premières années où Erdogan était au pouvoir. C'est-à-dire qu'à partir de 2004 jusqu'à 2008 à peu près, où il y avait un vent de réforme, ça a été
une ouverture vers l'Europe.
Une ouverture, ça a été les meilleures années pour la presse turque. Et depuis, c'est les pires.
Oui.
Et depuis, c'est les pires.
Ça a été une dissimulation, voilà. Finalement. Et pour cacher son régime basé sur l'islam le charia.
Mais un espoir s'était installé, et cet espoir s'est brutalement détruit aujourd'hui. Donc, on est passé du meilleur au pire en quelques années.
Alors, une question, Erol Oskar.
Oui, quand je dis isoler politiquement Erdogan, isoler le pouvoir. Pas la société turque, pas la Turquie elle-même. Donc l'Europe doit avoir ce dialogue toujours avec cette société civile.
Mais la société en a-t-elle envie?
Bien sûr, la société, parce que il n'y a pas une seule Turquie, il y a deux Turquies. La Turquie est complètement divisée en deux. Il y a la Turquie sunnite proche d'Erdogan qui est aux alentours de 50% de la population, et l'autre 50% grosso modo c'est laïque et ses yeux sont tournés vers l'Occident. Donc il faut pas mépriser ce second volet de cette population qui regarde vers l'Europe et qui attend beaucoup beaucoup de l'Europe. Donc l'Europe doit choisir son fusil d'épaule et doit mettre fin, à mon avis, politiquement, à cette collaboration très proche avec Erdogan, soi-disant qu'elle a des investissements en Turquie. Demain, ces investissements peuvent voler en éclats.
Alors Guillaume Perrier, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Est-ce que l'Europe doit effectivement, la France, l'Allemagne, rompre ce partenariat? Mais peut-être, allez-y.
Non, rompre le partenariat, certainement pas. Je crois que ça serait la pire des choses. Et c'est cette rupture que recherche Erdogan aujourd'hui.
On voit bien qu'il est plus ferme, je ne sais pas, Emmanuel Macron, comme il l'a été avec Vladimir Poutine, par exemple.
Par exemple, je pense qu'aujourd'hui, ça serait déjà un bon début. Effectivement, je pense qu'en tout cas, ça ne mettrait pas forcément en péril les relations avec la Turquie que de réaffirmer certaines valeurs démocratiques, certains principes, la liberté de la presse, la liberté d'expression. Et je ne pense pas que les Turcs s'offusqueraient de voir la France s'abriter derrière ce genre de valeurs. Ça serait un débat politique et un moyen de réaffirmer certains principes.
Erol Özkıray ?
Non, justement, l'Europe doit collaborer avec la Turquie, mais avec la société turque, avec la société civile turque, pas avec le pouvoir islamique. C'est ça, il faut mettre un terme à ça.
Avec toutes les composantes de la société turque.
Oui, parce que
comment le faire?
Il faut dialoguer.
Oui, dialoguer bien sûr. Le dialogue, c'est très important. Je viens de Suède, c'est le pays de dialogue. J'ai discuté avec le ministre de la Culture suédoise. J'ai exposé la même chose et elle m'a dit, mais le dialogue, nous avons besoin du dialogue. Bien sûr,
et le problème, c'est que les autorités sont évidemment l'interlocuteur numéro un. Comment parler avec la société civile sans parler avec Erdogan?
Mais ne pas... Et la Turquie ne veut pas dire, comme je vous disais, la Turquie ne veut pas dire Erdogan, donc il faut savoir séparer les choses, ne pas communiquer et donner son feu vert à cette dictature qui devient totalitaire maintenant.
Merci beaucoup à vous deux, Erol Özkıray, politologue, ancien correspondant en Turquie, donc de l'agence France Presse et d'El País. Je répète le nom de votre livre, Le Phénomène Gezi, qui vous a valu tous ces ennuis. Merci également à vous, Guillaume Perrier, journaliste, ancien correspondant du Monde à Istanbul, documentariste. Merci à Florence Pons, à Quentin Bresson. Tout de suite, c'est un nouveau journal. Nous, on se retrouve lundi pour un nouveau débat.